RFI. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus dans C'est pas du vent. Nous allons parler d'éducation à l'environnement à travers la diffusion de connaissances et d'une manière de faire du sport utile avec l'éco-jogging qui se développe en Afrique. Mais tout d'abord, direction le Proche-Orient et la Cisjordanie plus précisément, où toute cette semaine, on célèbre la migration des oiseaux. Et oui, c'est une région plus connue pour le conflit entre Israéliens et Palestiniens que pour sa faune et sa flore. Et pourtant, la Terre Sainte est l'une des principales routes de la migration des oiseaux entre l'Afrique et l'Europe. Deux fois par an, des centaines de milliers d'entre eux passent par cette région, parsemée de checkpoints et de barrières en tout genre. À Béjala, une ville près de Bethléem, s'est tenu cette semaine un festival sur ces migrations saisonnières. Objectif, sensibiliser les Palestiniens et les touristes à la riche biodiversité des territoires occupés, mais aussi aux conditions de travail difficiles des ornithologues en Cisjordanie en raison des restrictions de circulation. Notre correspondante Marine Vlaovic est allée à leur rencontre.
Jumelles autour du cou et sourire aux lèvres, un petit groupe d'adolescents est perché sur les hauteurs de Béjala. Simon Awad, directeur du centre d'éducation à l'environnement créé ici il y a 30 ans, donne le coup d'envoi du festival palestinien sur la migration des oiseaux devant des écoliers venus pour l'occasion.
Nous sommes dans les montagnes occidentales de Jérusalem, un lieu important pour la migration des oiseaux car ils empruntent trois routes, l'une à l'est dans la vallée du Jourdain, l'une à l'ouest, le long de la côte, et ici, au centre de la Palestine.
Avant de tenter d'entraîner son auditoire vers le poste d'observation quelques mètres plus loin...
En Palestine, on dit toujours « Yalla, on y va », mais tout le monde est en retard.
Sous les feux d'un conflit qui dure depuis près de 70 ans, la région est aussi une route importante de la migration des oiseaux entre l'Afrique et l'Europe. Deux fois par an, des centaines de milliers de volatiles passent par la Terre Sainte. Du pain béni pour la petite communauté d'ornithologues palestiniens du Centre d'éducation à l'environnement, chargée de les étudier. En ce moment, la migration printanière bat son plein et Michel Faroud est fidèle à son poste tous les jours dès l'aube.
À 4h30 et je reste jusqu'à 10h. Mais nous serons ouverts plus tard aujourd'hui, car nous attendons beaucoup de visiteurs.
Sur une table, il sort ses trouvailles du jour.
Ici, on a une Sylvia curuca, c'est une fauvette babillarde, et ici, une Sylvia atricapia, une fauvette à tête noire. C'est la cousine de la première. On attrape les oiseaux grâce au filet que vous pouvez voir ici. Ensuite, on les bague. On leur met une bague d'identification où c'est écrit « Palestine » avec un numéro. L'un des oiseaux que nous avons recensé ici a été jusqu'en Pologne. Un mois après que nous avons mis la bague, on nous a appelé de Pologne pour nous dire « On a attrapé cet oiseau avec le numéro A00047 ».
Munis de cette fameuse bague palestinienne, les oiseaux sont vite relâchés pour rejoindre le continent européen et les visiteurs sont conquis par ces boules de plumes, comme Merel, collégienne de 13 ans.
Ils sont importants car ils rendent la nature belle, ils lui donnent des couleurs.
Des oiseaux qui colorent des collines pelées. Depuis le poste d'observation de Béjalin, où l'on voit un paysage à couper le souffle, on distingue pourtant sans peine des blocs de béton. Le mur de séparation qui enserre la Cisjordanie et empêche les Palestiniens de se rendre du côté israélien est situé juste en contrebas. Les oiseaux, eux, ne connaissent pas les frontières, s'amuserait presque Simon Awad.
Ce sont des animaux très libres qui peuvent voler au-dessus des checkpoints, des barrières et des routes de contournement des colonies érigées par les Israéliens. Oui, les oiseaux peuvent les traverser, mais ce n'est pas le cas des mammifères qui subissent cette discontinuité territoriale. Ils ne peuvent pas aller d'est en ouest ou encore errer sans se heurter à ce mur qui est une barrière pour eux. Et dans le futur, cela aura des conséquences génétiques pour ces espèces.
Une faune et une flore sous occupation qu'il est difficile d'étudier pour les Palestiniens en raison des restrictions de circulation et du statut de certaines zones. À quelques dizaines de kilomètres de Beit Jala, Maed Reir emmène un groupe d'étudiants à Wadi El-Kelt. Cette vallée située entre Jérusalem et Jéricho fait partie des 60% de la Cisjordanie située en zone C, c'est-à-dire sous contrôle exclusif de l'armée israélienne et où les Palestiniens évitent de se rendre.
On organise cette randonnée en zone C pour montrer aux étudiants combien cet endroit est précieux. La plupart ne sont jamais venus ici, même si c'est à quelques kilomètres de chez eux. Et c'est important car ils ne connaissent ni les lieux ni leur biodiversité.
L'ornithologue, lui, visite souvent cette vallée encaissée du désert de Judée, car c'est ici que se trouve l'une des stations de recensement des oiseaux migrateurs.
Wadi El-Kelt est située sur la route principale de la migration des oiseaux. C'est ce qui fait la spécificité de cet endroit.
Le nez au ciel, le jeune Palestinien en profite pour observer les espèces locales.
Vous voyez celui-ci ? C'est un Arabian Babler, un cratérope écaillé qui vit seulement à Jéricho et dans quelques coins de Jordanie.
Ici, il a relevé plus de 1500 espèces différentes d'oiseaux au cours de dernières années, mais à ses risques et périls.
Il m'est souvent arrivé d'avoir des problèmes avec les soldats israéliens. Plusieurs fois, ils ont même essayé de me tirer dessus. Et ils m'ont souvent chassé d'ici en me disant « Prends tes affaires, va-t'en, tu n'as pas à travailler ici ». Je leur ai pourtant montré que j'étais un chercheur et pas un terroriste, car je n'avais pas d'armes, mais juste des livres, des jumelles et des appareils photos. Que je n'avais rien qui pouvait leur poser problème et que je voulais juste étudier le coin parce que c'est important. Mais ils m'ont chassé, c'est vrai. Ils utilisent cet endroit pour des exercices militaires, des exercices de tir, blablabla. Enfin, c'est très mauvais pour les oiseaux, oui, c'est mauvais pour les humains, les animaux, tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire ?
En plus de conditions de travail difficiles, les ornithologues palestiniens doivent faire face à une guerre de noms d'oiseaux, à l'image du Suimanga de Palestine, plus connu sous son nom anglais de Palestine Sunbird. Ce minuscule passereau au bec courbé et aux plumes multicolores a été pendant des années l'objet d'un conflit entre Palestiniens et Israéliens. Ces derniers avaient tout simplement essayé de le débaptiser pour le renommer Orange Sunbird, explique Mohamed Mouachne de l'autorité palestinienne de qualité de l'environnement.
Les Israéliens changent les noms originaux des oiseaux et des plantes, y compris le Palestine Sunbird. Ils ont essayé de lui donner un nom israélien afin de détruire et d'effacer un héritage naturel qui fait référence à la Palestine. C'est un moyen aussi de changer la réalité sur le terrain.
Et si la Palestine n'est toujours pas un État, elle a pourtant adopté en 2015 le Palestine Sunbird comme emblème national. Marine Vlaovic, Beit Jala et Wadi El-Kelt, RFI.
En nettoyant l'environnement, c'est une idée simple mais qui fait son chemin dans de nombreux pays du monde, notamment au Togo, grâce à vous, Félix Tagba. Bonjour.
Bonjour Anne-Cécile Brun, bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes en ligne donc depuis Lomé, vous êtes journaliste, vous avez créé un blog, l'eau, E-A-U. Objectivité, c'est un jeu de mots, l'objectivité. Et vous avez lancé en janvier une initiative qui prend de l'ampleur, l'éco-jogging. Expliquez-nous de quoi il s'agit.
Alors, éco-jogging, c'est un concept simple. Éco pour écologie et jogging pour la course à pied. Donc, le concept consiste à courir tout en ramassant les déchets qu'on trouve sur son chemin. Et en fait, l'idée est venue un matin parce que moi, j'aime faire du jogging, j'aime beaucoup courir. Et en fait, je me suis dit, puisque je m'intéresse aussi à la protection de l'environnement, d'où mon blog Objectivité, qui parle uniquement de l'environnement et du développement durable. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas associer le sport à la protection de l'environnement. Du coup, j'ai lancé l'idée sur mon compte Facebook. J'ai fait un Facebook Live et des gens ont aimé l'idée. Des gens ont fait des suggestions et d'autres m'ont été intéressés. Et du coup, on s'est donné rendez-vous à Lomé pour la première édition d'EcoJogging. Et du coup, ça a pris et les gens sont toujours intéressés par l'initiative.
Et la première édition a donc eu lieu le 28 janvier. Vous avez ramassé plus de 10 kilos de sachets plastiques que vous avez apportés à la prison.
Oui, effectivement, nous avons en fait ramassé beaucoup de sachets et nous sommes partis symboliquement à la prison civile de Lomé pour remettre ça aux prisonniers. Parce que pour la première édition, nous sommes en partenariat avec une structure qui s'appelle Zamke qui font le recyclage des déchets plastiques. Et en fait, les prisonniers transforment ces déchets plastiques en sacs, en porte-monnaie, en d'autres outils, en parapluies qu'ils revendent.
Et alors depuis, il y a eu d'autres éditions et vous communiquez sur les réseaux sociaux, comme vous le disiez. Donc le concept se développe dans d'autres pays.
Oui, le concept se développe dans d'autres pays. Nous avons lancé l'initiative aussi à Accra, au Ghana. Et voilà, c'est des gens qui sont là-bas qui m'ont fait appel, qui ont vu l'initiative et m'ont fait appel. Et donc, du coup, j'étais parti dans ce pays lancer l'initiative. Donc, nous avons collecté là-bas environ 20 kilos de sachets plastiques. Et il y a d'autres pays aussi qui sont entrés dans le mouvement. Je parle de la France aussi, ça se fait en France actuellement. Il y a d'autres pays qui se préparent aussi pour le faire, notamment Haïti. L'idée, c'est de faire ça dans tous les pays du monde où on peut trouver des déchets, les recycler. Voilà.
Alors, à Lomé, c'est chaque dernier samedi du mois, donc vous pouvez donner rendez-vous aux auditeurs de Lomé pour le prochain éco-jogging.
Alors, le prochain éco-jogging se fera le 29 avril. Ce sera dans le cadre de la Journée mondiale de la presse. Et nous voulons associer les journalistes à ce mouvement pour que tout le monde puisse courir et ramasser les déchets.
Et donc, si vous voulez en savoir plus, il y a une page Facebook éco-jogging. Merci Félix Tagbay, ne lâchez rien.
Sombre lueur au loin. S'étuit la peur sur mon chemin. L'âme se crise seule à bout. Le cœur se brise au creux des mains. Do you want to run away?
Les invités de C'est pas du vent se demandent souvent quelle planète nous laisserons à nos enfants, mais nous pouvons aussi nous demander quels enfants nous aimerions avoir pour cette planète. C'est la conviction en tout cas de nos invités d'aujourd'hui, convaincus de l'importance de l'éducation à l'environnement. Bonjour Agnès Rochefort-Turquin.
Bonjour.
Vous êtes directrice de la presse jeunesse chez Bayard, qui édite des magazines lus par au moins 5 millions de jeunes âgés de 4 à 19 ans en France. C'est énorme, 5 millions d'enfants, ça fait
oui,
un enfant sur 3.
Oui, c'est même plus que ça.
C'est plus que ça.
Bon, si on y ajoute les titres lecture, on approche les 10 millions.
Ah bon, mais donc
c'est incroyable. Hein,
c'est oui. Combien d'enfants en France? Presque tous.
Un sur trois.
Un sur trois,
au moins, oui.
Oui, ça fait beaucoup. Et alors, ce mois d'avril, c'est le mois vert chez Bayard.
Voilà.
Ça veut dire quoi?
Eh ben, ça veut dire que presque tous les titres vont traiter d'un sujet sur le développement durable dans la planète. Et cette année, c'est sur les déchets.
Les déchets. Alors, ça fait 8 ans que vous menez cette opération. Oui. Tous les ans, il y a un mois où vous zoomez sur un sujet pour sensibiliser les jeunes à l'environnement.
Oui.
Donc, les déchets. Alors, par exemple, quel type de sujet avez-vous traité et pour quel type de public ce mois-ci?
Alors, les publics depuis 3 ans, Pomme d'Api, jusqu'au plus grand, 18 ans. Et tous les titres n'y participent pas forcément. Les titres lecture, comme j'aime lire, c'est plus difficile. Ils peuvent faire une histoire qui traite de la planète. Mais sur les déchets, c'était quand même un petit peu difficile. Parce qu'à chaque fois, le sujet paraît difficile à traiter. Et à la fois, à chaque fois, les rédactions font des merveilles et nous surprennent. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire que on ne traite pas les sujets de façon moralo, pédagogique, je dirais, un peu lourde, mais on essaye de les traiter avec beaucoup d'énergie positive, on va dire.
Vous donnez envie, alors notamment vous donnez beaucoup envie de recycler, que ce soit pour les 3-8 ans, les 7-13 ans ou les 10-18 ans, à chaque fois, c'est des petites idées, des petites sensibilisations sur vos objets du quotidien, ont une seconde vie.
Voilà. Et ben, les déchets, il y a effectivement beaucoup la partie de recyclage qui commence par le tri. Donc les petits connaissent les poubelles de 3 couleurs différentes en France et donc on va leur expliquer ce qu'est le tri. Puis sur le recyclage, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment plein de choses astucieuses où, y compris les jeunes, et ça on les a mis en avant dans nos magazines, dans Okapi ou dans Phosphore, ont des idées géniales sur le sujet. Dans Okapi, il y a 3 lecteurs qu'on a mis dans un atelier de recyclage et ils avaient comme objectif de faire quelque chose avec que ça soit une boîte à chaussures ou un autre objet, et ils ont fait des choses super dans cet atelier où ils avaient tous les outils qu'il faut, une recyclerie. Donc c'est très énergique, hein, ça donne envie, c'est très ingénieux. Et dans Phosphore, donc pour les plus grands, on a fait un tour du monde de jeunes qui ont été primés parce qu'ils ont eu des idées de recyclage extraordinaires. J'en retiens un qui est amusant, c'est en Italie, des jeunes qui ont utilisé la photocopieuse 3D, donc en 3 dimensions. Ils fondent les bouteilles en plastique et... il en sort une coque pour téléphone.
Donc ça, c'est du recyclage direct. Et puis, il y a un projet d'isolation murale avec des paquets de chips vides aux États-Unis.
Oui, alors, il y a ça. Alors, celui-là, je ne l'ai pas en tête, mais j'en ai un autre avec les canettes. Et ça, c'est en Turquie, pour consolider les murs dans les zones de tremblement de terre ou, malheureusement, de guerre. Ils se sont aperçus que l'aluminium consolidait bien les murs et les empêchait de s'effondrer. Et donc, ils ont mis en place une récupération de canettes et en tapissant les murs de canettes, on consolide les murs pour empêcher qu'ils s'écroulent.
Alors, ça fait 8 ans que vous menez cette opération, je le disais tout à l'heure. Est-ce que vous avez des retours de la part des enfants, des parents, des enseignants aussi qui utilisent vos titres?
Oui, parce que je crois que la conscience qu'il faut faire quelque chose, en tout cas, il faut arrêter d'abîmer cette planète et trouver des solutions, est de plus en plus grande, et à chaque fois qu'on apporte des réponses qui sont mobilisatrices, c'est-à-dire qui donnent envie et qui surtout laissent comprendre que c'est possible, l'humanité peut le faire, alors les gens sont très heureux. Les gens sont très heureux et nous disent merci. Alors, il y a les enfants qui nous envoient des photos de ce qu'ils font, ou etc. Et il y a les parents qui nous disent merci parce que finalement, ils se rendent compte que si on le fait de façon lourde, je dirais un peu moralisatrice, etc., si ça devient une corvée, eh ben ça ne marche pas. Y compris pour eux. Et puis, il y a les enseignants que ça mobilise. Certains sont déjà très mobilisés sur la chose.
Alors, c'est vrai qu'en France, l'éducation à l'environnement est très présente dans les programmes scolaires, ce qui n'est pas le cas en Afrique. Bonjour, Karim Kadjogo.
Oui, bonjour, c'est Bra.
Vous êtes avec nous depuis Dakar au Sénégal et vous êtes parti justement de ce constat, hein, qu'il n'y avait pas d'éducation à l'environnement dans les programmes scolaires en Afrique et qu'il fallait absolument remédier à cette carence.
Oui, bah d'une part, en fait, c'est pour ça qu'on a créé le programme Yamoke, qui est un programme qu'on développe depuis plus de 4 ans ici à Dakar, au Sénégal. Donc, bah, un programme de, on va dire, de contenu culturel éducatif pour apprendre aux enfants les notions essentielles de la protection de l'environnement et du développement durable. Donc il se présente sous plusieurs formes, il y a des applications numériques, des bandes dessinées, des livres éducatifs, des objets dérivés comme des lampes solaires et des séries de dessins animés qu'on est en train d'essayer de développer. Donc en fait, bon, comme vous disiez, bon, d'ailleurs je suis un peu jaloux quand je vois la somme de choses qui sont faites dans les pays développés et qui donnent vraiment une chance à la jeunesse européenne et dans le monde entier. Alors qu'ici, effectivement, on a des problématiques qui sont liées à des comportements et sur lesquels personne n'agit.
Donc, par exemple,
on veut essayer, nous, avec... Bah, par exemple, la pollution comportementale, vous avez ici, je cite le Sénégal, mais en fait on pourrait élargir ce type de comportement à l'Afrique en général. Mais bon, les gens boivent des cafés, jettent leurs gobelets par terre, les gens boivent de l'eau dans des sachets plastiques, les jettent par terre. En fait, la rue est devenue un prolongement de la poubelle, quoi. Les gens n'ont pas la conscience qu'effectivement, jeter, c'est un geste incivique et qui provoque une pollution majeure.
Alors, vous ne l'avez pas entendu, mais juste avant vous, il y avait une initiative intéressante au Togo hein, de Félix Tagba qui a lancé l'éco-jogging. Donc, on peut faire du sport en ramassant des déchets. Et puis, c'est vrai qu'il ne faut pas seulement accuser les citoyens africains. C'est vrai qu'il y a un manque de poubelles aussi. Bon, alors après, c'est vrai qu'il y a des questions d'éducation, mais c'est vrai que s'il y avait plus de poubelles dans les rues des villes, les gens penseraient peut-être plus à y mettre leurs déchets.
Oui, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faille plus d'objets qui permettent effectivement de jeter. Mais je pense qu'il y a aussi, dans le même temps, en fait, c'est une action combinée. On peut mettre des poubelles, mais si on ne donne pas, qu'on ne fait pas prendre conscience aux gens qu'il faut jeter dans la poubelle, les poubelles seront vides. Ouais. Donc on pense, nous, qu'il y a une génération qui est déjà un petit peu perdue, entre guillemets, malheureusement, d'adultes. Mais pour les enfants, on voit qu'ils adoptent aujourd'hui les comportements des grands. Et donc on voudrait, nous, qu'ils puissent changer ce type de comportement. Donc en fait, il faut pouvoir les préparer à affronter les problématiques et les défis qui vont se poser à l'Afrique en matière d'environnement.
Et c'est pour ça que vous avez créé, vous, votre personnage Miyamoke. Alors Miyamoke, c'est une petite fille noire, on va y revenir, c'est important parce que ça permet aux enfants de s'identifier à cette héroïne. Et alors, elle enquête, par exemple, sur la déforestation avec sa famille, ses amis et des djinns, hein, qui sont ces étranges personnages qui vivent dans la nature. Donc voilà, l'idée, c'est à travers ce personnage de sensibiliser, comme le disait Agnès Rochefort-Turquin, en donnant envie.
Oui, en fait, le premier objectif, c'est de valoriser la culture et l'identité de l'enfant africain. Parce que, en fait, en créant un petit héros qui lui ressemble, on permet aussi de donner une vision positive de sa culture, de son identité. Parce que pour le moment, l'environnement du divertissement est dominé par des références étrangères, Barbie et Hello Kitty. Quand vous voyez les enfants sortir des écoles ici au Sénégal, ils ont des cartables avec Reine des Neiges, Barbie, etc. Donc on sait que ça pose forcément un problème au niveau du développement personnel de l'enfant africain. De voir que son identité n'est pas représentée parmi tous ces héros, il en déduit forcément que sa culture ne mérite pas d'être mise en valeur. On en est persuadé. Donc Miyamoke, elle répond aussi à ce premier objectif de rendre l'enfant africain fier de sa culture, de ses ressources et de son identité. Donc ensuite, le deuxième objectif, c'est de préparer tous les enfants du continent à affronter ces problématiques et défis qui se posent à l'Afrique en matière d'environnement. Et pour ça, il faut commencer à leur expliquer quels sont ces problèmes, c'est-à-dire la déforestation, le réchauffement climatique, la pollution plastique et urbaine, la pression sur les ressources. On ne peut pas attendre qu'ils aient 20 ans pour les mettre face à ces défis. Donc nous, on veut donc les préparer, les rendre conscients que tous ces enjeux, ce sont ces enjeux à eux, et il faut qu'ils soient des acteurs éclairés de leur futur. Et pour cela, on choisit de passer par des supports ludo-éducatifs qui permettent aux enfants d'acquérir ces connaissances tout en étant dans un environnement ludique. On ne veut pas que ce soit trop scolastique. En fait, c'est vrai qu'on rêverait que l'éducation environnementale soit intégrée dans les programmes scolaires, mais on a d'autres canaux de connaissances aujourd'hui. Vous voyez, on a 400 millions de smartphones en Afrique en 2017. D'ailleurs, vous trouvez que la ligne est bonne, donc en fait, on a même des qualités technologiques.
Oui, ça s'améliore, on va dire.
On a un milliard pratiquement de mobiles, on a 100 millions de postes de téléviseurs, et on ne se pose toujours pas la question des contenus culturels. Donc en fait, on laisse les enfants dans une espèce de no man's land en termes d'éducation à la vie, Et on a besoin aujourd'hui de réfléchir et de commencer à produire en masse des contenus culturels pour éduquer nos enfants et les préparer aux défis de demain.
Donc c'est ce que vous faites avec Miyamoke. Après, je vais quand même le dire, vous le faites vraiment avec cœur et sur fond propre. Vous avez de nombreux projets, mais vous recherchez des partenaires, hein.
Ah, oui, effectivement, j'imagine que vous travaillez depuis longtemps en Afrique, vous savez que chaque fois que vous voudrez adresser à des projets, surtout en matière de culture, d'innovation ou d'environnement, ben, le discours reste souvent centré sur l'absence d'aide ou de subvention. Donc bon, on rencontre tous les problèmes que rencontrent ces projets en Afrique, c'est-à-dire une absence pratiquement totale de subvention ou d'aide. Donc c'est un programme, effectivement, comme vous avez dit, que nous autofinançons depuis 4 ans grâce à notre activité d'agence de communication. Bon, pourtant, le lancement a été fait en septembre 2016. Le programme a été récompensé pour l'application, il a remporté le prix d'innovation numérique en 2016, il a été sélectionné par l'annuaire EFICIC parmi les 366 projets pour faire évoluer la planète. Donc on a les compétences, on a une vision, on a un modèle économique qui peut être extrêmement rentable, on a une reconnaissance de la part du public, on reçoit énormément de messages des enfants, des parents également, et on a aussi une reconnaissance de nombreux médias, et pourtant on ne trouve pas de financement ou de subvention pour ce type de projet culturel.
Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci à Ludivine Amado pour la réalisation et la mise en onde et à vous pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous écrire par mail c'estpasduvent@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux #c'estpasduvent. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve samedi prochain, même planète, même heure.